sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invitée aujourd'hui sera Anne-Cécile Robert, rédactrice en chef adjointe du Monde diplomatique. Je vous raconte le contexte. C'était le 7 juin, avant le non au traité de Lisbonne des Irlandais, lors du colloque « En finir avec l'eurolibéralisme » organisé par Mémoire des luttes et Utopie critique. Je coince Anne-Cécile Robert. Enregistrement dans une cour de la fac de Paris 8 à Saint-Denis, bruit de circulation et avion, et même crissement du vêtement de pluie d'Anne-Cécile. Le micro reste ouvert 26 minutes. J'aurais pu couper au montage, mais non, tout était intéressant. Ça part du traité de Lisbonne pour en arriver à la représentativité des partis et à l'esprit de renoncement de la gauche. Plus que stimulant. Alors, pas de pause musicale. C'est parti! En 2005, deux pays européens avaient marqué leur opposition au traité constitutionnel et par cela on pouvait voir une certaine distance d'un certain nombre de peuples européens avec le projet justement de l'Europe. Aujourd'hui peut-être que le non va gagner en Irlande, ça marquerait à nouveau une distance au moins d'un autre peuple avec ce projet. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'un jour, au niveau européen, au niveau des instances européennes, on puisse entendre justement la voix des peuples? Et si oui, à ce moment-là, quelles autres voies pourraient-on emprunter?
Il est tout à fait frappant de voir que le traité de Lisbonne, lorsqu'il a été signé, a été accompagné finalement d'un accord tacite ou explicite entre les chefs d'État et de gouvernement sur le point qu'il n'y aurait pas de référendum dans aucun pays. L'Irlande a, dans sa constitution, inscrit la nécessité du référendum, donc cette clause tacite n'a pas pu être mise en œuvre. Tant mieux, il y a un peuple qui porte l'espoir de tous les autres. Donc il y a vraiment une peur de la part des instances européennes de la souveraineté populaire et de ce que pensent les peuples. Et cette peur n'est pas un hasard, elle est vraiment structurelle. La construction européenne a été basée sur une mise à l'écart des peuples consciente dès les années 50. Ce qu'on appelle la méthode Monnet, du nom de Jean Monnet qui a pensé les institutions européennes, c'est l'idée que la politique c'est emmerdant, que le gouvernement doit être confié à des experts, notamment des économistes, et que moins les peuples s'en mêlent, mieux c'est, parce que de toute façon, ils comprennent rien. Et aujourd'hui, on a l'achèvement de cette logique avec ce qu'on peut appeler carrément l'instauration d'une sorte d'aristocratie européenne qui a des relais dans tous les États nationaux et qui perpétue cette logique et qui pense diriger l'Europe pour le bien des Européens, mais on ne demande jamais l'avis des Européens. Ces gens sont comme les aristocrates du XVIIIe siècle, convaincus qu'ils ont le pouvoir par bon droit et qui savent mieux que les gens ce qui est bon pour eux. Alors de cette logique, est-ce qu'on peut sortir ? On peut en sortir, évidemment. Le problème n'est pas un problème technique, c'est un problème véritablement politique. C'est-à-dire que si on veut quitter cette logique de contournement des souverainetés populaires, de déni de démocratie, disons-le carrément, on n'a pas de problème juridique. Je sais que certains disent « oui, mais on ne peut pas réformer l'Europe, il y a des traités, de toute façon on n'est qu'un pays parmi 27, bientôt on sera 30 ». Non, il n'y a pas d'obstacle, juridique. D'abord parce que dans les traités, les États conservent la haute main sur l'évolution européenne. Aucun traité ne peut être adopté sans le consentement des États. Donc, quelque part, ça nous remet, nous, peuple, un moyen de contrôle entre les mains, puisqu'on a, au total, encore pour quelque temps, la possibilité d'élire nos dirigeants. Donc, c'est important de signaler qu'il n'y a pas d'obstacle technique ou juridique, il y a un obstacle politique. Et cet obstacle politique, il tient au fait que dans les démocraties, entre guillemets, européennes, nous avons des classes dirigeantes qui ne sont plus représentatives des peuples. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, on continuera d'avoir la reproduction au niveau européen de cette caste au service d'un certain nombre de privilèges économiques et sociaux ou fiscaux dont l'actualité nous donne des exemples. Donc c'est ce problème de représentation politique auquel il faut s'attaquer. Alors là, on a deux possibilités par rapport à ça. Certains disent il faut instaurer des élections à l'échelle de l'Europe, faire une constituante européenne. Je vous dis tout de suite, c'est pas du tout mon opinion. Parce que pour que ce soit crédible, une élection au niveau de l'Europe, il faudrait que l'Europe soit une communauté politique dans laquelle tous les citoyens européens se reconnaissent. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ne nous sentons pas, c'est un bien, c'est un mal, en tout cas c'est comme ça, d'intérêt commun, de destin commun avec les Lettons, les Suédois, les Autrichiens. Et donc, automatiquement, un processus électoral ou constituant à l'échelle de l'Europe relèverait de la manipulation de circonscriptions électorales et induirait une mise en minorité automatique des gens qui veulent justement changer les choses. Donc je ne crois pas du tout à ce type de choses. D'abord parce que je ne crois pas qu'il y ait un peuple européen. Je crois qu'on reste quand même avec des identités fortes et ce n'est pas forcément un mal. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué, mais il y a deux peuples qui ont voté non au traité constitutionnel européen en 2005 par référendum. On peut supposer que d'autres peuples l'auraient fait. Mais ce qui est frappant, c'est que le Parlement européen, lui, a voté oui. Donc on voit bien la contradiction entre l'idée de faire des élections au niveau européen et la possibilité de faire des élections au niveau national. Le type de représentativité, de justesse de la représentation des peuples n'est pas du tout la même. Donc l'une des solutions que je vois, ce serait qu'il y ait dans tous les États européens des processus constituants destinés à redéfinir les règles du jeu politique de manière à ce qu'on ait à nouveau une classe politique représentative. Et pour ça, ça passe par la remise en cause des systèmes institutionnels. En France, la Ve République, carrément. Alors nous, on a un bidouillage constitutionnel en ce moment entre l'UMP et le PS. C'est pas acceptable non plus, parce qu'ils sont en train de se redistribuer le pouvoir. Mais nous, en tant que peuple, on le verra jamais. Donc la seule solution, c'est d'élire une assemblée constituante au suffrage universel. Et j'ai créé avec quelques amis une association en ce sens, dont le but sera de définir les règles d'élection de cette assemblée, parce que c'est la seule façon de déverrouiller le système. On est face à un verrouillage, et tant qu'on n'aura pas rompu avec ce système politique qui ne fait que reproduire des gens qui profitent du système et qui se cooptent les uns les autres, on n'y arrivera pas. Donc il faut déverrouiller, et l'une des façons, c'est de remettre en cause démocratiquement nos institutions par le biais de processus constituants et pourquoi pas l'élection d'une assemblée constituante. Et en tout cas de poser le problème de cette manière.
Et vous disiez qu'il y avait deux solutions, la deuxième.
Ben voilà, c'est la branche, si vous voulez, la solution démocratique, elle a deux branches. Soit on fait des processus électoraux au niveau européen, soit on fait des processus électoraux au niveau national. Moi, je ne crois pas aux processus électoraux au niveau européen. Je pense que ça doit rester dans le cadre national parce que, qu'on le veuille ou non, les nations restent des cadres de référence dans lesquels les gens se retrouvent peu ou prou. Et qui donc peuvent déboucher sur des processus légitimes de représentation. Et on sait, bon, même aujourd'hui, on n'aime pas forcément le président de la République, mais tous les Français savent qu'il a été élu suivant des procédures. Donc il y a des processus de légitimité. Si on fait une élection d'un président de la République au niveau européen, ça ne pourra pas être légitime parce que ça ressemble à rien. Parce qu'on n'a pas une communauté politique, on ne pourra pas débattre. On n'aura pas les mêmes centres d'intérêt, on ne parle même pas la même langue, on ne parlera pas de la même chose. Et résultat, si on arrive avec des procédures formellement démocratiques à élire quelqu'un, il sera comme un lapin d'un chapeau, il sera au-dessus de la réalité. Donc l'autre branche de l'alternative, c'est d'avoir des processus constituants dans chacun des États pour essayer de renouveler la classe politique et d'avoir au niveau national et au niveau européen des gens qui nous représentent vraiment et qui seront capables de porter ce qu'on veut vraiment, c'est-à-dire une volonté de remettre en cause cette Europe.
Ces processus constituants, ça semble difficile à mettre en œuvre, d'autant plus qu'il faudrait à ce moment-là que ce soit dans l'ensemble des pays européens. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies, éventuellement la sortie d'un seul pays, par exemple, de l'Europe, qui pourrait faire un espèce de grand clash ?
Alors, tout d'abord, si déjà au niveau de la France, on arrive à ce processus constituant, ça sera très bien. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, la dernière présidentielle, j'ai vécu comme un cauchemar. Un débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, mais pourquoi pas Mickey et Donald, franchement. Donc il y a une urgence déjà chez nous à déverrouiller ce système, parce que quand on n'est pas d'accord avec l'UMP, on est obligé de voter pour le PS, quand on n'est pas d'accord avec le PS, on est obligé de voter pour l'UMP, et résultat, les mêmes politiques se reproduisent. Donc on a urgence déjà pour nous à déverrouiller ce système. Et pour ça, il faut l'élection d'une assemblée constituante. Après, j'invite nos partenaires européens à faire la même chose, parce que je crois qu'ils ont le même problème. Que dans tous les pays européens, il y a un problème de représentation des peuples. Mais bon, déjà, on va pas décider à la place des autres, hein, mais déjà, si nous, en France, on pouvait remettre les règles du jeu sur le tapis et les redéfinir d'une manière à ce qu'on soit vraiment représenté, ça serait très bien. Après, comme vous l'évoquiez, toutes les solutions sont possibles. La sortie de l'Europe, qui était un gros mot il y a quelque temps, commence à devenir une idée non pas populaire, mais qui se répand. Là aussi, je précise pour tout le monde, il n'y a pas d'obstacle juridique à ça. Et même le traité de Lisbonne, ce serait peut-être la seule bonne raison de le ratifier, d'ailleurs, ce monstre, qui est le monstre cloné du traité constitutionnel, autorise dans un article la sortie de l'Union européenne. Il y a un article qui prévoit le cas où un État veut sortir. Donc il n'y a pas d'obstacle juridique. Alors certains se diraient, est-ce que si on sort de l'Europe, ça ne va pas être la catastrophe ? Il faut, moi je ne sais pas si je suis pour ou contre la sortie de l'Europe, en tout cas la question me semble légitime et n'induit pas de catastrophe, pas plus que le rejet du traité constitutionnel n'a provoqué de catastrophe. Ne serait-ce que parce que l'alternative, contrairement à ce qu'on nous fait croire, n'est pas entre l'Europe et le repli frileux derrière les frontières nationales, c'est pas vrai. D'ailleurs personne n'est pour le repli frileux derrière les frontières nationales, même pas les fachos qui veulent faire une Europe blanche où on serait tous blonds, Donc personne n'est pour le repli frileux derrière les frontières nationales. Donc c'est pas ça l'alternative. L'alternative, elle est entre l'Europe intégrée, fondée sur l'économie de marché qui est ultra-libérale, et d'autres modes d'insertion de l'État dans la mondialisation. Et aujourd'hui, on constate qu'il existe déjà des modes de coopération étatique qui ne sont pas sur le mode de l'Europe d'aujourd'hui, hyper intégrée, hyper économiste, et qui marchent. Regardez, EADS, Airbus... C'est de l'Europe intergouvernementale, c'est l'Europe des États-nations du général de Gaulle, c'est pas l'Europe intégrée. Donc l'Europe alternative, elle existe déjà, et d'ailleurs, elle marche. Hein. Et d'ailleurs, on pourrait même pousser l'image jusqu'au bout, cette Europe intergouvernementale donc, qui est faite entre les États-nations, elle réussit, parce qu'on peut dire, pour suivre l'image, elle fait des avions, elle envoie des fusées dans l'espace, et qui c'est qui l'emmerde ? C'est l'Europe intégrée de Bruxelles aujourd'hui qui l'oblige à délocaliser aux États-Unis et en Chine. C'est ça le paradoxe. L'efficacité n'est pas du côté aujourd'hui, ou du moins l'efficacité sociale et du côté de la lutte contre le chômage, elle n'est pas du côté de l'Europe actuelle de Bruxelles. Elle est plutôt dans d'autres choses. Donc il y a tout un tas de... les États ont tout un tas de moyens de s'insérer dans la mondialisation et de coopérer les uns avec les autres sans disparaître. Et au fond, on est face à une bifurcation là aussi. L'Europe d'aujourd'hui, l'Europe réellement existante, elle a choisi ce qu'on appelle le mondialisme, c'est-à-dire la dilution des États, la dilution des peuples au service du marché. Il y a une autre branche que le monde ouvrier, le camp progressiste connaît depuis longtemps, c'est l'internationalisme, c'est-à-dire la coopération des nations, coopération de nations libres qui choisissent de s'associer au service de projets. Et ça, c'est à réactiver, parce que ça... les peuples peuvent conserver la maîtrise de ces processus et ils peuvent les orienter et éventuellement par des élections, par des débats nationaux. Donc l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de quitter cette voie mondialiste qui ne fait que renforcer le marché et les gens les plus riches pour revenir à des formes d'internationalisme où on verrait les États non pas repliés derrière leurs frontières, mais coopérer les uns avec les autres pour, je sais pas moi, faire de l'industrie, des transports, lutter pour une meilleure santé, lutter contre les maladies endémiques, faire des grands travaux publics pour créer des emplois. Voilà, on pourrait avoir une Europe des grands projets comme ça, qui serait pas une Europe intégrée qui s'occupe de tout depuis la taille des saucissons jusqu'au cours de l'euro.
Aligre FM 93.1.
Des sous et des hommes sur Aligre FM, on est avec Anne-Cécile Robert, rédactrice en chef adjointe du Monde diplomatique.
À un moment, vous disiez que visiblement les partis politiques actuellement qui sont les plus importants dans les différents pays européens ne représentent pas le peuple. Pourquoi ?
C'est vrai qu'il faudrait faire la généalogie de ça. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette situation qu'on constate tous ? De cette caste de gens qui se cooptent au pouvoir et qui ne représentent plus les peuples. Alors il y a différentes explications. Il y a des explications idéologiques. D'abord, l'explication idéologique, c'est que depuis les années 50, vous avez eu une entreprise de colonisation idéologique qui est partie des États-Unis, qui a été menée par des gens comme Hayek, et qui ont, au service des idées libérales, et qui ont consciemment colonisé les universités, les séminaires, les colloques, qui sont allés démarcher un par un les partis politiques, les syndicats, et qui petit à petit ont décervelé les syndicats. Et ça, c'est intéressant de voir, c'est très bien analysé dans le livre de Serge Halimi, Le Grand Bond en arrière. C'est intéressant de voir pour nous qui voulons renverser la vapeur, comment un petit groupe de gens décidés peuvent renverser des rapports de force idéologiques. À la limite, nous pourrions essayer d'avoir nous-mêmes une stratégie inverse pour revenir à d'autres idées. Donc il y a une dimension idéologique très forte. Il y a une dimension sociale aussi, au sens où la politique en Europe s'est professionnalisée. Aujourd'hui, la politique est un métier et non plus un mandat. Donc ça, c'est une perversion. Normalement, vous êtes élu, vous représentez les gens. Là, aujourd'hui, vous avez des professionnels de la politique. Et ça, ça favorise des classes plutôt aisées, des gens qui ont les moyens. D'ailleurs, la politique est un métier risqué. Si vous perdez votre mandat, vous n'avez plus rien. Donc, on a structurellement la promotion de gens qui appartiennent aux catégories aisées. Et l'une des solutions serait de réfléchir d'ailleurs à un statut de l'élu qui permettrait à des gens des classes populaires d'être élus sans prendre le risque, si jamais ils sont pas réélus, de ne pas retrouver d'emploi après. Troisième élément, ce sont les institutions. On a globalement, depuis la guerre, des institutions de plus en plus autoritaires, c'est une évolution, je dis depuis la guerre, mais ça remonte même avant. On a l'idée qu'il faut des institutions efficaces. Alors je sais pas, il y en a qui disent que c'est justement l'économie de guerre qui a militarisé les institutions. Bon, je sais pas, faudrait regarder. Hein. En tout cas, c'est un fait que nos institutions sont de plus en plus autoritaires, et c'est-à-dire que les parlements, les instances collectives sont phagocytées, n'ont pas de pouvoir, et ce sont des individus, comme chez nous le président de la République, qui concentrent tous les pouvoirs. Et ça, c'est extrêmement pervers, parce que comment un seul homme ou une seule femme peut-il représenter une collectivité ? C'est insensé. C'est extrêmement rare. On a vu dans l'histoire, par exemple, le général de Gaulle, à un moment donné, il a été en phase avec toute la nation, il a embarqué la nation. Mais c'est extrêmement rare. Or, on a basé nos systèmes institutionnels sur cette idée qu'il peut y avoir un homme ou une femme providentielle. Et quand on y pense, c'est complètement absurde, parce que c'est vraiment le cas le plus rare. Donc, ces institutions autoritaires, il faut les remettre en cause et revenir à des formes collectives de pouvoir. Alors, il y a toute une propagande hein, depuis les années 50 contre les parlements, disant les parlements ça prend du temps, ils n'arrêtent pas de se renverser, c'est instable, c'est un peu le cirque, etc. Ça, c'est de la propagande. Si vous regardez les grands régimes parlementaires en France, la Troisième République, la Quatrième, sont des régimes bâtisseurs. La Troisième République, elle a construit l'école, elle a construit la sécurité sociale, enfin le ministère du Travail sous Clémenceau, etc. La Quatrième République, c'est elle qui a lancé, on est pour ou contre le programme nucléaire, qui a bon l'industrialisation. Bon, donc le parlementarisme n'est pas synonyme d'inefficacité, contrairement à la propagande. Et on pourrait avoir aujourd'hui, on en aurait besoin, des institutions qui font plus confiance à des instances collectives. Et ce, d'autant plus que, comme on est dans une phase de recomposition idéologique, on a besoin d'une représentation diverse, plurielle. On ne pourra pas, encore moins aujourd'hui qu'il y a quelques années, avoir une personne ou même une seule formation politique qui va incarner la diversité politique, parce qu'on est dans une recherche. Le monde a tellement changé qu'on est dans une pluralité de points de vue, et c'est dans l'expression de cette pluralité de points de vue qu'on aura la solution. Donc il faut absolument qu'on retrouve... Et c'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, que les candidats du non ont échoué à l'élection présidentielle. Ils pouvaient pas... L'élection présidentielle était totalement inadaptée à la représentation du non. Parce que le non au traité constitutionnel européen de 2005, d'ailleurs il n'était ni de droite ni de gauche, c'était un non populaire, c'était le non de la souveraineté nationale. Donc il ne pouvait pas s'incarner en une seule personne, il ne pouvait pas s'incarner dans un camp. À la limite, on aurait dû demander, après le non, la dissolution de l'Assemblée nationale, ou comme je le disais tout à l'heure, l'élection d'une assemblée constituante pour remettre en cause le jeu politique. Donc... la question institutionnelle, aujourd'hui, elle est devenue fondamentale parce que les institutions sont des verrous et les partis politiques sont embarqués là-dedans. Ils sont composés de gens très honnêtes, hein, c'est pas la question, ils sont pas pourris comme dans d'autres pays, mais ils sont embarqués dans un système qui ne peut plus nous représenter. Et la seule façon, c'est de remettre les dés dans le gobelet, commencer une nouvelle partie, et pour ça, c'est changer de constitution, et ça ne peut se faire qu'en demandant l'avis du peuple, parce que si c'est les partis politiques actuels, UMP, PS, qui font la nouvelle constitution, on va reproduire le même schéma. Donc il faut absolument avoir un processus ouvert de redéfinition de la constitution, et que à minima, la révision actuelle de la Constitution française soit soumise à un référendum, et à maxima, qu'on obtienne l'élection d'une assemblée constituante au suffrage universel pour que, enfin, le peuple soit représenté dans sa diversité.
Vous écoutez Aligre FM.
Des sous et des hommes, toujours en compagnie d'Anne-Cécile Robert, rédactrice en chef adjointe du Monde Diplomatique.
Moi, ce qui m'apparaît, c'est que certains mots sont devenus tabous, en particulier dans les partis de gauche, dont je me sentirais, moi, par exemple, plus proche, comme ceux de Nation, la mise en cause... Les partis de gauche, visiblement, avalisent tous, du moins ceux qui visent à obtenir le pouvoir, ils avalisent l'idée de mondialisation sans en faire du tout d'analyse. On n'a pas le droit de parler de protection douanière et tout sujet justement qui pourtant traîne un peu dans le cœur des gens, des simples gens. Comment se fait-il justement que ces partis de gauche qui normalement ont validité à représenter le peuple n'entendent plus ça ?
L'un des problèmes est complètement idéologique, c'est-à-dire que les partis, les syndicats ont été colonisés idéologiquement par cette pensée qui dit que la nation c'est pas bien, que les droits de douane c'est pas bien, etc. C'est une bataille idéologique qui a été menée à partir des années 50, mais très renforcée dans les années 80, et que nous en France on a vécu sous Mitterrand, paradoxalement, qui s'est fait le relais de ça. Donc on a un problème idéologique que la pensée dominante dans les gens qui sont dans les universités, qui écrivent les livres, qui sont dans les médias, parce que les médias jouent un rôle très négatif là-dedans, la pensée dominante est une pensée hostile à la souveraineté populaire, hostile à la démocratie, très favorable au libéralisme, à la mondialisation, etc. Et donc ça, c'est un phénomène important. Et ensuite, les syndicats, les partis, mais même un certain nombre de grandes associations, vivent une panne de représentation, elles aussi. C'est-à-dire qu'elles sont, par la logique de l'efficacité institutionnelle, par la logique de la personnalisation, elles sont embarquées dans le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire on favorise par la personnalisation, par l'idée il faut être efficace, on va pas se perdre dans des débats qui fâchent, ça favorise finalement le consensus mou, le plus petit dénominateur commun, et on valorise l'esprit de soumission, finalement le conformisme intellectuel. C'est l'une des grandes maladies du siècle, que l'esprit critique aujourd'hui soit dénigré. On valorise les gens qui pensent comme les autres. Et du coup, le système se reproduit. Donc il y a deux choses à faire. La déconstruction idéologique est déjà bien entamée. Moi, je constate par les conférences que je fais, les gens sont vraiment extrêmement au courant et affûtés par rapport à ça. C'est l'encadrement qui est, j'allais dire, contaminé par la pensée libérale, et qu'il faut donc remettre en cause. Alors, je sais qu'on sait dans des syndicats, il y a eu des scissions, par exemple. Mais on s'aperçoit que dans le système politique, la logique de l'élection présidentielle fait qu'il n'y a jamais de scission. C'est-à-dire vous avez à l'UMP et au PS des gens qui pensent mais complètement le contraire. Mais ils restent ensemble, c'est complètement aberrant. Il n'y a aucune raison, quand on le voit, ils pensent des choses diamétralement opposées. Et pourquoi ils restent ensemble ? Parce qu'il faut conquérir le pouvoir, il faut devenir président, il faut... Donc ces institutions sont liberticides, elles entraînent des logiques d'embrigadement, d'enrégimentement des gens... qui favorise le conformisme, la pipolisation, la dérive médiatique et l'étouffement de la diversité intellectuelle et de l'esprit critique.
J'ai une question idiote, c'est comment est-il possible pour quelqu'un de gauche de continuer d'avaliser des politiques qui amènent ce dont on entend parler tous les jours actuellement dans les médias, les difficultés de pouvoir d'achat comme ils disent, ça veut dire simplement pas réussir à s'acheter à manger éventuellement. Comment c'est possible qu'ils arrivent intellectuellement à supporter ça ?
Il faudrait faire la généalogie de cet esprit de renoncement, effectivement, qui affecte une partie des gens de gauche. Il y a plusieurs éléments, mais il faudrait une réflexion approfondie là-dessus. Le premier, je pense qu'on n'a pas fait l'analyse assez de ce qui s'est passé en Union soviétique. C'est-à-dire l'échec de l'Union soviétique, on en a tiré la conclusion que toute pensée alternative au capitalisme conduisait au totalitarisme. Or, c'est complètement faux. pour la simple et bonne raison déjà que la gauche ne s'est jamais réduite au Parti communiste. Il y a toujours eu à gauche la social-démocratie, même la démocratie chrétienne, le mouvement mutualisme, l'anarchisme, le syndicalisme. Il y a toujours eu une pluralité de tendances, mais on nous a englobés tous dans l'échec de l'Union soviétique. Et donc, il faut qu'on arrive à dire, c'est pas notre histoire. Je veux dire, au congrès de Tours, en 1920 ou 24, je me souviens plus, il y a quand même plus de la moitié des gens qui refusent de marcher dans l'embrigadement soviétique et qui vont créer un autre parti, ça va donner de la social-démocratie, etc. Plus le mouvement anarchiste, etc. Donc, on n'a jamais été englobé là-dedans. Mais il faut absolument se défaire de ça. Après, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que les institutions favorisent des gens qui ont des parcours qui vont en fait transformer au niveau politique leur propre échec ou leur propre reniement. C'est-à-dire, on va avoir comme représentants des gens qui étaient peut-être de gauche il y a 20 ans, qui pour des raisons personnelles ont bifurqué à droite, mais qui restent dans l'appareillage et qui se disent représentants de la gauche. Et le système a intérêt à, on pourrait citer des noms, mais là ça serait très méchant, le système a intérêt à valoriser ces gens qui vont venir à la télévision raconter comment quand ils étaient petits, ils étaient révolutionnaires et que c'était pas bien, et qu'ils brandissaient le poing, et qu'ils voulaient transformer la société, et que franchement c'est pas raisonnable, et qui deviennent des personnages médiatiques. Il y a des figures du PS, il y en a plein, là, il y en a à l'appel, disons des noms, de Michel Rocard à Julien Drey, qui viennent battre leur coupe, et simplement ils nous racontent leur vie, ces gens. Ils nous racontent simplement qu'ils se sont embourgeoisés, qu'ils ont renié leurs convictions, et ils voudraient qu'on fasse tous pareil. Donc il y a besoin de foutre un coup de pied dans cette fourmilière, et ça implique des choix douloureux, notamment de rompre avec le système, avec le jeu politique, et là je mets les pieds dans le plat. Si on veut refonder la gauche, à un moment donné, il faudra se poser la question de la relation avec le PS. Qu'est-ce que font les gens qui veulent refonder la gauche, créer des partis au deuxième tour? Si ils vont à nouveau avec le PS, ça veut dire qu'on recommence. Donc est-ce que il faut inclure dans le logiciel de refondation idéologique de la gauche la refondation des institutions et du jeu politique? Sinon, immanquablement, on sera coincé dans des jeux à la con, avec qui je m'allie au deuxième tour, avec qui je vais parce qu'il faut bien avoir des places, etc. Donc les deux doivent être liés, la refondation idéologique de la gauche, la reconstitution de la lutte des classes sociales et la remise en cause du jeu politique. Sinon on est foutu, refonder la gauche, ça voudrait dire recommencer comme avant.
Et oui, c'était donc Des Sous et des Hommes avec Anne-Cécile Robert, rédactrice en chef adjointe du Monde Diplomatique. Comme il me faut que je me dépêche, je n'ai que le temps de vous dire que pour la dernière de Des Sous, vous retrouverez la semaine prochaine Lim Hoang-nok qui me fait l'honneur de venir dans cette dernière émission. Voilà, à la semaine prochaine !